Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Nous revoilà donc pour cette quatrième édition de cette émission Éclairage sur l'actualité internationale. Je dois dire que d'un mois sur l'autre, celle-ci est constamment très chargée, ce qui veut dire qu'elle va nous projeter une fois de plus sur les États-Unis, ce qui n'est pas une surprise, et sur Barack Obama, mais aussi sur d'autres actualités dans le monde, nous allons le voir. Je voudrais qu'en effet, que nous commencions par Barack Obama, parce qu'à la veille de Noël, il a réussi son pari de faire voter son projet concernant la santé, et donc il a obtenu le score qui lui était indispensable au Sénat pour que ce projet soit viable. En même temps, je constaterai deux choses, et c'est là-dessus que j'aimerais vous demander votre réaction. La première, c'est que pour la première fois, sur un sujet aussi important concernant la société américaine, c'est parti contre parti. Il y a vraiment toutes les voix du Parti démocrate et toutes les voix pour et toutes les voix du Parti républicain sont contre. Et donc c'est une division, c'est une fracture, alors que le sujet aurait pu susciter une adhésion, même partielle, d'un certain nombre d'adversaires politiques. Je me demande si cela donne une image de renforcement ou d'affaiblissement de Barack Obama. D'autant que, quand on regarde la négociation de près qui l'a conduit à obtenir ce vote, on constate certes qu'en apparence son projet va entrer en vigueur, mais dans le détail, il a beaucoup négocié sur des points extraordinairement différents, par exemple l'avortement, et que surtout, il laisse la gestion de son projet aux compagnies d'assurance privées. Donc, ma question, cette épreuve n'est pas tout à fait terminée encore, mais est-ce qu'à la sortie de celle-ci, il est plus fort ou moins fort qu'il ne l'était il y a quelques mois ?
Évidemment, dans votre analyse très fine, sous forme de question, il y a énormément de choses. Le premier point qu'il faut toujours avoir en tête, je crois, quand on parle des États-Unis, c'est la culture de la négociation. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des compromis et que même au bout du compte, on se retrouve avec des textes qui, sur certains plans, sont très loin de ce qu'il y avait au départ, ça ne choque absolument personne aux États-Unis. C'est quelque chose de tout à fait normal. Nous ne sommes pas dans la culture française. Le fait qu'il y ait, au bout du compte, partie comme contrepartie, comme vous dites, devrait être a priori considéré comme quelque chose de très positif. Il est amusant, en effet, que l'on soit amené à se poser la question que vous avez mise en avant et de trouver presque bizarre, si vous voulez, qu'il n'y ait pas un peu de démocrate qui ait voté contre ou de républicain qui ait voté pour. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'unité du Parti démocrate. Car le camp même du président Obama est un camp qui est secoué. Et je rappelle, je crois que nous avons eu l'occasion d'en parler déjà plusieurs fois dans nos entretiens antérieurs, qu'il y a tout de même toujours une force de haine contre ce président, sinon noir, du moins métisse, et que ceci est loin d'être terminé, y compris d'ailleurs dans son propre camp. Donc je trouve plutôt remarquable et positif pour Obama qu'il ait fait l'unanimité dans son propre camp. Alors sinon, maintenant sur le fond, je ferai deux observations. La première, c'est que cela fait des décennies que l'on parle de la question d'assurance sociale générale, universelle aux États-Unis et que rien ne se passe. Derrière ça, il y a beaucoup d'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie, disons, libérale, qui est tout de même très forte dans le système américain. Et il y a également des intérêts extrêmement puissants, comme nous le savons bien, et qui ont joué un rôle important. Dans ces conditions, je trouve personnellement que le compromis qui a été trouvé n'est pas si mal que ça, parce que c'est un grand bond en avant vers un système de sécurité sociale, de protection de santé universelle. C'est quelque chose d'extraordinaire, j'insiste là-dessus. Donc le bond est tout de même qualitatif, pas seulement quantitatif. Quant au fait que ce soit géré en partie, en grande partie d'ailleurs par les sociétés privées, Je trouve que c'est très intéressant. Peut-être même que dans quelques années, on trouvera ça intéressant, même dans un pays comme la France, voyez-vous. Donc je pense que sur le plan expérimental, en tout cas, ça mérite tout à fait intérêt et considération positive. Donc, au bout du compte, est-ce que Obama sort de tout ça plus fort ou moins fort? Je crois que si on s'en tient, en tout cas, à l'aspect politique intérieur, c'est incontestablement une véritable victoire. Et on ne peut pas lui ôter cela. Et je crois d'ailleurs que c'est considéré comme tel aux États-Unis. Alors, il n'empêche que si on prend maintenant la situation d'Obama dans le contexte d'ensemble, c'est une autre question. Mais là, oui,
nous
il y a
allons
une victoire très nette, à mon avis.
Et donc, au lendemain de cette victoire que vous venez de décrire, cher Thierry de Maubrial, Obama part pour un congé pendant les fêtes, il part pour Hawaï et est réveillé, si je puis dire, pendant le premier jour de ses congés, c'est-à-dire le jour même de Noël, par la tentative d'attentat, ou plus exactement l'attentat avorté dans cet avion qui avait décollé d'Europe pour se rendre à Detroit, aux États-Unis, et dans lequel on trouve donc un jeune Nigérian de 23 ans entraîné au Yémen à se faire exploser avec l'avion. Et soudain, le président des États-Unis découvre que l'information concernant ce jeune terroriste présumé et préparé à devenir un kamikaze était connue de ses services de renseignement, mais que ceux-ci n'avaient pas été croisés entre eux, que l'on n'avait pas pris les précautions nécessaires. Et cela va se compliquer d'autre chose. C'est qu'on a eu le sentiment que dans la communauté du renseignement, comme on dit aux États-Unis, un certain nombre de ses responsables étaient tentés de faire peser leur responsabilité sur la tête d'Obama, considéré comme un mou en matière de sécurité nationale. D'où le défi qui lui est posé, d'une part, de remettre en route ses services de renseignement pour que ceux-ci protègent les États-Unis de ce genre d'agression, et d'autre part, d'apparaître dans le monde comme un président ferme.
Alors, cette histoire est en effet très intéressante, car on voit bien comment ce qui pourrait être perçu comme un simple incident devient un problème politique majeur qui permet à tous les adversaires critiques d'exprimer leur hostilité. Je voudrais commencer par quelques remarques sur l'aspect technique, parce que c'est un aspect technique, si vous voulez. Vous et moi, nous savons ce que c'est que d'aller aux États-Unis, c'est déjà un parcours du combattant. Bon. Déjà, rien que pour entrer dans l'avion au départ, pour passer les formalités de police à l'arrivée, etc., c'est déjà compliqué. Alors, il y a vraiment un problème d'organisation. C'est le problème de l'aiguille dans une botte de foin. Laisser passer une personne mal contrôlée, que ça puisse échapper, etc., il faut bien voir qu'en termes organisationnels, arriver à avoir des systèmes de filtrage absolument parfaits, d'abord, ça n'existe pas, mais en tout cas, pour s'en rapprocher, c'est extraordinairement difficile. Techniquement, là, nous parlons de fichiers qui comprennent des dizaines de milliers de noms. Nous parlons de gens qui font des contrôles de sécurité et qui, généralement, sont des gens qui sont assez mal formés. Il y a beaucoup de problèmes organisationnels. On ne peut pas tenir le président des États-Unis pour responsable de cela. Pas plus qu'on a reproché à Bush d'être responsable du 11 septembre. Donc, ça veut dire qu'il y a un défi, mais ce défi, il nous concerne tous, hein, parce que des choses comme ça, ça peut concerner n'importe quel pays, hein, ça peut concerner la France. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui arrive à passer à travers les mailles du filet, il y a un drame qui se produit en conséquence. Alors, ça, c'est l'aspect technique. Comme à chaque fois qu'il y a un incident grave avec une histoire qui se termine bien, en l'occurrence, a fortiori quand ça se termine mal, eh bien, ça amène des réorganisations et chercher d'améliorer le système. Ça, c'est l'aspect, encore une fois, technique. Mais comme vous venez de le dire, de toute façon, on n'aura jamais de système parfait. Bon. Alors, il y a un deuxième aspect qui est plus politique, qui est qu'on voit bien que dans le monde actuel, il y a beaucoup de ce que les experts appellent les quasi-États ou d'États imparfaits, où peuvent se tramer des attentats de ce genre. Les pays qui bordent la côte est de l'Afrique sont particulièrement candidats.
Là, vous voulez parler du Yémen, du Soudan, de la Somalie.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on est en train de retrouver d'ailleurs des réalités qui étaient celles du 19e siècle. Et simplement, au 19e siècle, quand on parlait de côte des pirates et tout ça, ça avait un côté un petit peu exotique. Aujourd'hui, ce n'est pas exotique du tout. C'est dramatique à cause de la mondialisation, bien entendu. Par conséquent, je pense que ceci mérite attention. Et alors, l'autre aspect, le dernier aspect, c'est en effet le fait qu'autour de cet incident, c'est l'ensemble de la politique américaine qui est mise en cause, d'Obama. Et là, on retrouve la haine dont je parlais et on retrouve finalement le clan qui reste regroupé autour de l'ancien président Bush et plus spécialement de l'ancien vice-président Cheney, et qui ne manque pas une occasion de dénoncer la prétendue mollesse d'Obama.
De Barack Obama.
Donc il y a trois dimensions.
Absolument. Une dimension technique, une dimension politique, une dimension stratégique.
Oui, ouais,
tout à fait. Pour insister un instant sur la dimension stratégique, car elle pose une question qui, à moi, me paraît quasiment insoluble. Nous sommes Alliance occidentale en Afghanistan pour répliquer à des attentats. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les kamikazes ne viennent plus d'Afghanistan. Les camps d'entraînement ont cessé d'être en Afghanistan. Mais on les retrouve ailleurs. Situation dangereuse du Pakistan, sur laquelle vous vous êtes beaucoup expliqué au cours de notre émission précédente. Situation dangereuse, donc, maintenant, dans la Corne de l'Afrique, Somalie, Soudan et Yémen, mais jusque au Nigeria. Et donc, on ne peut pas envisager, me semble-t-il, de rapatrier des troupes qui sont aujourd'hui en Afghanistan pour les raisons qu'on a dites, et les amener au Yémen ou ailleurs, parce qu'on ne peut pas conduire cette politique-là sur tous les fronts. Alors, comment faire ?
Écoutez, tout d'abord, moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre d'Afghanistan n'était pas forcément la solution la plus sage. Je pense que l'Afghanistan est un bourbier et peut-être d'autres méthodes eussent-elles été possibles, c'est-à-dire de bombarder les camps, les forces spéciales, etc. Mais d'envahir, d'occuper l'Afghanistan me paraît personnellement comme une aventure extrêmement hasardeuse. Si d'aventure quiconque avait l'idée d'envahir le Yémen, je lui souhaite également bien du plaisir. En réalité, nous avons ces pays, ces terres déshéritées, montagneuses, avec des traditions tribales extrêmement anciennes, etc. Il faut être de la plus grande prudence. Et là, c'est les leçons de sagesse millénaire, finalement, en tout cas centenaire ou multicentenaire, qu'il faut garder en tête. Je rappelle aussi que la Corne de l'Afrique, ce n'est pas nouveau. Par exemple, Oussama Ben Laden, je rappelle qu'il a commencé aussi sa carrière de terroriste au Soudan. Les premiers attentats dans les années 90 du siècle dernier, c'était au Soudan. Il est allé du Soudan en Afghanistan. Comment organiser la chasse aux unités actives terroristes type Al-Qaïda, etc. C'est une question stratégique fondamentale. Je ne suis pas sûr que les réponses impliquent d'envahir des territoires ou de systématiquement opérer par des méthodes de bombardement massive, etc. etc. Bon. Alors là, il y a toute une dimension proprement stratégique ou tactico-stratégique. Alors au-delà de ça, il y a de la grande politique. Pour revenir par exemple un instant sur les talibans et la question de l'Afghanistan et le rapport entre Afghanistan, talibans, terroristes, etc., je crois qu'il faut rappeler encore une fois qu'immédiatement, ça renvoie à la question du Pakistan lui-même. La question du Pakistan renvoie au conflit avec l'Inde, parce que je rappelle qu'il y a environ 1 million de soldats indiens qui sont déployés le long de la frontière avec le Pakistan. Donc derrière ça, c'est la question du Cachemire. En conséquence de quoi, les Pakistanais refusent de redéployer leurs troupes vers l'ouest où on en a besoin. Donc ça montre vraiment d'ailleurs les connexions qu'il y a dans la grande politique internationale aujourd'hui. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas réglé la question pakistano-indienne, tant qu'on n'aura pas réglé cette question, on n'arrivera pas à sécuriser convenablement la bordure orientale de l'Afghanistan ou la bordure occidentale du Pakistan. Et comme de l'autre côté, on a l'Iran, on voit comment tout se tient. Ceci aussi nous amène à un point qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre les enjeux. C'est qu'avec la mondialisation, ça bénéficie, si j'ose dire, à tout le monde, y compris aux terroristes. Puisque la mondialisation, c'est une certaine façon de pouvoir faire n'importe quoi dans n'importe quel territoire. Donc les États, qu'on appelle donc les quasi-États, qui autrefois ne méritaient qu'un intérêt distrait, sont devenus absolument centraux. C'est-à-dire que toute partie de cette planète qui n'est pas bien contrôlée par un État peut donner lieu à des activités potentiellement dramatiques à l'échelle planétaire dans son ensemble. Et c'est pourquoi la problématique aujourd'hui, c'est aussi celle du renforcement des États. Et le drame aujourd'hui, ce n'est pas les États trop forts, on passe son temps à critiquer la Chine, la Russie, les droits de l'homme, etc. Mais la plus grande difficulté, elle se trouve du côté des États trop faibles.
Alors, il est évident que cela concerne au premier chef les États-Unis, la diplomatie américaine, avant la diplomatie occidentale dans son ensemble. Mais nous, Français, nous avons un sujet de préoccupation équivalent, qui est au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire dans toute la bande du Maghreb, avec Al-Qaïda Maghreb. Et nous venons de voir, avec les menaces qui ont été proférées à l'égard d'otages ou d'envoyés français dans les organisations non gouvernementales, les ONG, au Mali par exemple, être menacés par Al-Qaïda Maghreb, ce qui signifie que dans ce sud saharien extraordinairement désert, mais capable d'occuper des camps d'entraînement, nous avons là aussi une menace. Et on voit bien les différences de jugement qui sont portées par la communauté internationale sur les différents régimes que sont le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie dans la sécurité vis-à-vis du terrorisme. En particulier, la Tunisie n'est jamais citée dans les pays à risque, alors que l'Algérie l'est directement. Et donc on voit le travail que nous, Français, avons à faire dans cette région.
Alors, les problèmes du Maghreb, le Maghreb, c'est notre flanc sud immédiat. On en parle peu, d'ailleurs, je constate, et quand on en parle, c'est souvent de façon critique, parce que l'on critique justement le régime autoritaire du président Ben Ali, ou naturellement le régime, l'espèce d'oligarchie civilo-militaire algérienne, ou encore le Maroc, jugé parfois trop répressif et allant suffisamment dans la direction des droits de l'homme, etc., etc. Bon. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention, en fait, à ces jugements. Parce que si la Tunisie n'est jamais citée, c'est effectivement parce que c'est un pays qui est extrêmement contrôlé sur le plan sécuritaire. L'Algérie, finalement, le régime actuel tient relativement bien en main la situation. Et j'en dirais du reste autant du Maroc, parce que depuis les attentats de Casablanca, etc., le gouvernement marocain, finalement, contrôle assez bien la situation sécuritaire. Faut-il souhaiter que certaines formes de libéralisation de ces régimes se traduisent finalement par un tel relâchement de la situation qu'explose finalement des unités terroristes, que se développent des groupes de type Al-Qaïda, etc. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que imaginons un instant que les pays du Maghreb évoluent comme l'Afghanistan ou les côtes somaliennes ou les côtes orientales de l'Afrique, la Corne de l'Afrique, vous voyez le drame dans lequel nous nous trouverions. Ce serait véritablement une situation dramatique. Donc je crois qu'il faut être extraordinairement prudent. Il faut analyser évidemment les situations lucidement, mais il faut être extrêmement prudent. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la priorité, me semble-t-il, doit être donnée à la sécurité, y compris par rapport aux actions de ces groupes terroristes.
Thierry de Montbrial, merci beaucoup. Et donc nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de cet éclairage.
Merci, cher François Dorcival.